chronique de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Pour cette chronique économie et finances, j'ai le plaisir de recevoir Jacques Delarosière de l'Académie des sciences morales et politiques, qui occupa et occupe encore d'importantes fonctions dans le monde des finances, ayant été, et pour ne citer que quelques-uns des postes qu'il a occupés, directeur du Trésor, directeur général du FMI, gouverneur de la Banque de France. Bonjour, monsieur Delarosière.
Bonjour, madame.
Cette chronique vous appartient. Vous nous proposez de nous éclairer sur la crise financière qui frappe la zone euro depuis quelques mois. Selon vous, d'où vient cette crise?
Je crois que la crise vient de ce que les autorités ont eu à faire face à un problème très spécifique qui était celui de la dette grecque, qui est une dette publique très élevée en termes de pourcentage du produit intérieur brut de ce pays, à peu près 160% avant la détérioration toute récente de la situation économique en Grèce. Et ces autorités n'ont pas traité le problème suffisamment tôt. Je pense qu'il aurait fallu le traiter dès le printemps de l'année 2010. Et on finit par considérer qu'il y avait la nécessité de restructurer en partie cette dette au mois de juillet 2011. Mais c'était tardif et c'était probablement insuffisant. Ça, c'est un élément qui a déstabilisé les marchés. Parce que les marchés sont toujours inquiets quand ils voient qu'une situation que eux jugent relativement simple à analyser et à décider n'est en fait que traitée de manière imparfaite. Ça, c'est un point. Et un deuxième point, c'est que dans la foulée de cette incertitude sur la dette grecque, les marchés ont commencé à faire leurs additions concernant les expositions, comme on dit, d'un certain nombre de banques européennes à des risques souverains de pays dits périphériques, c'est-à-dire la Grèce, l'Irlande, le Portugal, etc. Et ils se sont demandé si toutes ces créances qu'avaient les institutions financières européennes sur ces États n'étaient pas en partie vulnérables. Du fait de la difficulté d'un certain nombre de pays à mettre de l'ordre dans leurs finances publiques. Et petit à petit s'est instaurée la notion que, du fait de cette forte exposition au risque souverain, comme on l'appelle, les banques européennes étaient sous-capitalisées. Je crois que c'est ça la réponse à votre première question, c'est-à-dire l'origine de cette espèce d'aggravation de la crise depuis quelques mois. Alors, évidemment, j'ai des choses à dire sur ces points qui sont à l'origine de ces événements.
Oui, les banques sont-elles réellement sous-capitalisées?
Non, alors je ne pense pas que les banques européennes soient réellement sous-capitalisées. J'ai regardé ça très en détail, j'ai regardé le bilan des 90 banques européennes qui sont les plus importantes et qui font l'objet de ce qu'on appelle les stress tests, c'est-à-dire les tests de résistance que font les autorités européennes de supervision. Et on arrive à la conclusion que l'exposition au risque souverain de ces banques est certes importante, elle est de l'ordre de 8% de leurs expositions totales, mais que le fait de décoter, si vous voulez, ces risques souverains en fonction de ce que le marché décote. Tous les jours, il y a des cotes qui sont réalisées par les marchés financiers sur les dettes obligataires de ces pays. Et si vous appliquez ces décotes de marché à l'exposition des banques européennes à ces différentes dettes souveraines, vous voyez que l'effet sur les fonds propres de ces banques est en réalité très limité. Il est de l'ordre de 1 point de pourcentage. Alors pour fixer les idées, les banques européennes ont à peu près 10,5% de fonds propres par rapport à leurs actifs, à leurs expositions totales, ce qui est dans le très haut de la moyenne internationale. Il y a quelques banques aux États-Unis qui ont 11%, mais enfin, le fait d'avoir 10,5% en moyenne pour les grandes banques européennes est très satisfaisant. Et le fait de réduire, si on voulait faire ces décotes, de à peu près un point, c'est-à-dire de ramener le 10,5% à 9,5%, ne change guère les données du problème, puisque les chiffres de Bâle sont à 7% et pas à 9,5%. Et encore, ils ne sont obligatoires que par un séquencement qui se termine en janvier 2019, alors que nous parlons ici des 10,5%, c'est aujourd'hui. Donc, en réalité, il n'est pas vrai de dire que les grandes banques européennes, en moyenne, ont besoin d'être capitalisées. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'un certain nombre de banques en Europe, sont généralement des banques plus petites que les très grandes banques, ont soit des créances souveraines, soit plus souvent des créances sur des emprunteurs immobiliers qui ont des problèmes. Et quand on fait les décotes appropriées, on s'aperçoit que leur niveau de capitalisation est insuffisant. Donc, il y a un certain nombre de banques, pas les plus grandes, qui ont besoin de se recapitaliser, mais pas les anciennes.
Les plus petites sont-elles les plus nombreuses ? C'est-à-dire que ça concernerait...
Ça concerne quelques dizaines de banques, quelques vingtaines de banques, mais ce ne sont pas des problèmes majeurs. Et donc, on peut se demander pourquoi, disons, la spéculation pour faire court, c'est-à-dire l'ensemble des marchés, se soit braquée sur ce problème de la dette souveraine périphérique des banques européennes, alors qu'en réalité, le problème est assez limité. Je pense qu'il y a un élément de spéculation et je pense qu'il y a, et c'est peut-être plus sérieux, un élément de doute sur l'avenir de l'euro. Et évidemment, quand vous êtes un gérant de fonds étrangers, américains ou asiatiques, et que vous avez des actifs libellés en euros, vous êtes inquiet si on vous dit beaucoup dans la presse que l'avenir de l'euro est incertain. Donc je pense que c'est un élément qui se rajoute, si vous voulez, au point un peu plus technique du niveau de solvabilité des banques.
Et selon vous, alors, l'euro en tant que monnaie est-il véritablement menacé ?
Non, je ne pense pas qu'il soit menacé. Je pense qu'il est sous pression aujourd'hui, à cause de ce que nous venons de dire. Mais comme les fondamentaux que j'indiquais sont bons, l'ensemble des banques européennes est solide et ne prête pas à doute ou à soupçon, je pense que les inquiétudes sont exagérées. Il faudrait néanmoins, et c'est ce que j'espère va se produire le 23 octobre lorsque les dirigeants européens se seront réunis ce dimanche-là, il faudrait néanmoins mettre en place un certain nombre de dispositifs qui seraient de nature à rassurer les marchés sur cette question de la survie de l'euro. Et je pense que ces orientations tournent autour de plusieurs axes. Le premier, c'est de reconnaître à travers toute l'Europe, qu'il est bon de faire des décotes dans les bilans des banques pour des actifs qui sont décotés par les marchés. Je pense que ce n'est pas notre tradition. Je pense que certaines banques qui détiennent des actifs jusqu'à maturité, jusqu'à échéance, ne sont pas habituées à les décoter ou les surcoter en fonction des points de marché. Mais je pense que le marché le demande.
Donc ce serait une nouvelle habitude pour les banques ?
Ce serait une nouvelle habitude. Et je pense que les banques sont en train de le faire. Je vois qu'autour de moi, un certain nombre de banques en France et à l'étranger, en Europe, sont en train de réduire la valeur de certaines de leurs expositions en fonction de ce que leur disent le marché. Je pense que c'est ça. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'après avoir fait ces décotes, s'il y a des banques qui sont insuffisamment capitalisées par rapport aux chiffres dits de Bâle, pour employer un jargon, alors il faut aider ces banques à se regonfler en capital. La troisième chose, c'est qu'il faut mettre en œuvre ce fameux fonds européen de soutien financier. Il vient d'être voté, là, il y a quelques instants, par la dernière ratification slovaque qui a eu lieu, et il faut maintenant le mettre en œuvre. Je pense qu'il y a des manières intelligentes de faire en sorte que les 440 milliards d'euros qui sont au centre de ce fonds puissent être utilisés de manière, je dirais, plus efficace, avec un effet de levier. J'espère qu'on y pense et qu'on aura une décision en ce sens, parce que les 440 milliards peuvent être beaucoup plus importants dans leur efficacité potentielle. La troisième chose, c'est que je pense qu'il va falloir faire le nécessaire sur la dette grecque et ne pas rester au milieu du chemin.
Y a-t-il une solution vraiment ?
Oui, il y a des solutions.
Ce sont des solutions
qui sont toujours les mêmes. Elles gravitent autour d'un programme sérieux de la part du pays lui-même pour remettre en ordre ses finances publiques. Les Grecs sont en train d'y travailler très fort. Ils ont déjà fait beaucoup de choses, mais un peu plus, c'est encore nécessaire. Il y a des privatisations qui peuvent se faire, etc. Et puis, il y a une restructuration plus marquée de la dette souveraine elle-même. Et puis, la troisième chose, je crois, c'est rassurer les marchés sur la capacité des Européens à rendre liquides les marchés qui, de temps en temps, ne le sont pas. Et là, le rôle de la Banque Centrale Européenne en tant que prêteur en dernier ressort est absolument essentiel. Il n'y a pas de banque centrale qui ne soit amenée, un jour ou l'autre, à jouer le rôle de prêteur en dernier ressort lorsque les marchés se grippent. Et je pense que la Banque Centrale Européenne aura sa part à jouer dans ce rétablissement, si vous voulez, ou ce renforcement de la confiance dans l'euro. Et enfin, il faudrait que les politiques, me semble-t-il, montrent qu'ils vont s'orienter vers une certaine forme de gouvernance économique et financière et budgétaire qui soit plus efficace que celle qui, depuis 12 ans...
Elle tarde à se mettre en place.
Oui, parce que depuis 12 ans, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu des pays qui avaient fait l'union monétaire. L'union monétaire fonctionnait très bien. Les taux d'intérêt étaient faibles parce que la monnaie européenne s'est bien tenue du point de vue de l'inflation. Mais un certain nombre de pays n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire du point de vue de leurs finances publiques ou de leurs réformes de structure. Et leur manque de compétitivité par rapport aux pays les mieux gérés s'est accru et a fini, lorsque les marchés ont enfin ouvert les yeux, par faire apparaître des équilibres que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, il faut, me semble-t-il, qu'il y ait des dispositifs en Europe qui soient de nature à éviter ces déviations qui ont fleuri pendant trop longtemps.
Là, c'est une volonté politique.
C'est une volonté politique. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus important dans les quatre choses dont je vous ai parlé.
Ces quatre points du dispositif, à votre avis, ça va permettre au système de s'en sortir ?
Absolument. Absolument, parce que l'euro est une très bonne monnaie. C'est une monnaie, d'ailleurs, qui a gardé sa valeur internationale malgré la crise. Elle est toujours très bien placée sur l'échiquier des monnaies. C'est un bon réservoir de valeur. L'inflation en Europe a été très faible, plus faible qu'ailleurs. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat de la monnaie a été préservé, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et c'est une monnaie qui préside à une économie qui est très importante, 300 millions d'habitants, avec des industries extrêmement performantes, parmi les plus performantes du monde. Et donc, et c'est une économie aussi qui est capable de générer une épargne très importante, puisque vous le savez, la zone euro est une des rares zones du monde qui est en équilibre de balance des paiements. Elle n'est ni en surplus, ni en déficit, ce qui malheureusement est la caractéristique pour le déficit des États-Unis et pour la Chine et d'autres pays émergents pour le surplus.
Mais c'est un discours positif qu'on entend peu actuellement.
Oui, on entend peu parce
qu'on entend beaucoup plus de critiques
que
de...
Oui, bien sûr, parce qu'une partie du monde anglo-saxon essaye peut-être de dénigrer une zone qui les a beaucoup perturbés dans son grand succès des premières années. Et on comprend que les analystes soient critiques face à ces crises actuelles, mais on comprend aussi que ceux qui cherchent à sortir de cette situation et à réfléchir sur l'avenir voient aussi les points forts de cet euro. Moi, je suis persuadé que quand on aura mis en place les quelques orientations dont je parle, les choses se remettent graduellement en place et qu'on aura un plus grand discernement dans l'attitude des marchés. J'ajoute qu'il y a des systèmes bancaires, comme le système bancaire américain, qui ont des expositions, non pas tellement à des dettes souveraines, mais qui ont des expositions à des dettes hypothécaires extrêmement importantes. J'ai fait le calcul, les banques américaines sont endettées à l'égard, ou sont créditrices, à l'égard des emprunteurs immobiliers américains, à hauteur à peu près du même montant que les banques européennes sont créditrices d'États souverains en Europe. Et donc, il se trouve que, par coïncidence, les deux montants sont à peu près les mêmes. Si on appliquait à ces 4 trillions de dollars de créances hypothécaires de banques américaines la même méthode que celle que nous sommes en train, petit à petit, d'appliquer en Europe, c'est-à-dire de faire des décotes sur ces valeurs, si on appliquait cette méthode aux banques américaines, alors les provisionnements seraient considérables, ils seraient de plusieurs centaines de milliards de dollars. Et ces provisions ne sont pas effectuées. Tant que l'emprunteur américain paye son intérêt, je ne parle pas de l'amortissement, l'amortissement il est oublié, il est reporté, mais en ce qui concerne les intérêts, tant que les intérêts sont payés, on considère que la dette est de bonne qualité et n'a pas à être décotée. Évidemment, si on appliquait cette méthode aux banques européennes, elle serait considérée comme en bien meilleur état. Et donc, je crois qu'il y a deux poids et deux mesures. Et c'est une des choses qui me gêne dans la régulation et la supervision des systèmes financiers mondiaux, c'est que l'égalité est encore très loin d'être instaurée.
Merci Jacques de La Rosière de nous avoir fait partager ce point de vue et à bientôt pour une autre chronique.
Merci.